Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, encore quelques minutes de débrief de l'ActuTech en ce jeudi 2 mai avec Frédéric Simotel ce soir, Lucas Perraudin et Clément David. Il nous reste quelques minutes, on va évoquer le Rabbit dans un instant, mais auparavant, puisqu'on était dans la VR, Lucas, tu as testé donc le Vision Pro et on voulait avoir ton avis quand même, parce que en tant qu'expert dans ce domaine, Clément t'as bien aimé, Fred aussi, moi j'étais impressionné de par la qualité en fait visuelle du produit. Alors, est-ce que Apple a bien travaillé avec ce produit-là ou pas ?
Oui, alors c'est un produit qui répond aux spécifications. Et bon, comme c'est vrai que j'avais regardé énormément de revues avant, donc j'ai pas eu de surprise. Arriver à la fin de l'histoire, j'ai mis mon t-shirt Oculus Quest aujourd'hui pour cette raison. Les choses qui sont
encore un peu supporter de Meta.
Non, totalement. Après avoir essayé le Apple Vision Pro, je suis encore plus persuadé de l'injustice qu'on fait à Meta par rapport à ces produits, parce que très sincèrement, alors ce qui est bien meilleur, c'est la nav. Pointer avec les yeux et cliquer avec les doigts, ça marche super bien. Bon, pour que ça arrive, ils ont dû mettre 21 capteurs de plus, ça pèse beaucoup plus lourd. Enfin, c'est un choix technologique qui a été fait et le software marche très très bien. Donc ça, c'est bien meilleur. La définition, j'ai fait un peu d'immersion, un truc avec un dinosaure qui m'attaquait, tout ça. J'ai passé un quart d'heure dedans, j'ai surtout essayé de faire du web, voir ce qu'on pouvait faire en gaming par rapport à un Beat Saber, etc.
T'as trouvé l'ergonomie au niveau de celle de Meta, en dessous, au-dessus ?
Alors moi, étant habitué, c'est toujours pareil quand on utilise. Hein. Oui. En tout cas, elle n'est pas notoirement meilleure pour que je me sois dit, ah tiens, c'est bien mieux. Il a fallu que j'essaie de retrouver mes repères. Je ne l'ai pas retrouvé plus facilement et puis je n'ai pas trouvé ça meilleur. J'ai trouvé ça beaucoup plus lourd, ça chauffe beaucoup plus. Enfin, niveau confort, c'est la pression sur le visage, etc. Ce qui est vraiment la barrière pour que ces trucs-là soient utilisables de manière mainstream. Elle est très forte, le truc d'avoir le...
Oui, la batterie,
alors moi, je l'avais
la
posé à côté, poche. Après j'ai essayé de marcher avec. Mais en fait, quand on marche, parfois le menu accroche ou parfois le menu accroche pas. Donc c'était un peu... Enfin, en tout cas, moi, mon expérience a été ça. Parce qu'on a vu tellement de vidéos de gens qui marchaient avec, j'ai essayé de faire un tour.
Ouais, c'est pas possible.
Il paraît qu'elles sont bidonnées, en fait, ces vidéos. C'était juste une...
En tout cas, moi, mon expérience a été que parfois c'était stable, parfois non, c'était pas génial. Donc c'est meilleur visuellement, la navigation est meilleure. Mais le coût de tout ça, c'est plus de technologie embarquée, plus de poids, plus de chaleur. Et par contre, au niveau évidemment des applicatifs, Meta est encore en avance avec ce qu'ils ont. Donc voilà. Et puis, il n'y a rien de révolutionnaire. Encore une fois, on a l'impression qu'Apple a inventé la VR, le spatial computing, etc. Next Computing Platform, c'est exactement le même narratif, les mêmes objectifs. Meta fait des choix plus fonctionnels et Apple des choix, on va dire, plus... On voit que c'est une boîte de hardware qui a fait du hardware de qualité pendant longtemps. Le problème, c'est que faire du hardware de qualité avec de la VR, ça veut dire faire des hardware qui soient lourds.
Et qui soient coûteux, puisque rappelons qu'il y a $3,500. Hein.
Donc voilà, j'ai pas été, pour parler bien français, blown away, j'ai pas été fasciné, j'ai pas été surpris. J'ai bien aimé la
navigation,
la précision de la nav, quoi, la navigation.
Bon. Ouais, moi, un préambule, mais moi en plus, je suis pas du tout fan de la VR. À date, je vois pas, c'est un peu comme la blockchain, je vois pas, à part la formation de jeux vidéo, je vois pas les usages. Donc c'est un marché auquel j'ai toujours du mal à croire. Mais en revanche, c'est vrai que moi, quand j'ai mis le casque, je me suis dit, qu'est-ce que j'attends de plus ? J'attends que Apple, dans l'utilisation, me montre un truc qui me surprenne, et pour le coup, j'ai rien lu à l'avance, etc. Et où je vais me dire, waouh, ça c'est un effet waouh quand tu l'utilises. Mais c'est vrai que le côté, ça suit ton regard, tu regardes un bouton, tu cliques avec ton doigt, ça clique sur le bouton, etc. Ça, pour le coup, j'ai trouvé ça fabuleux. Je veux dire, t'as un changement, t'as une rupture d'expérience par rapport à ce qu'il y avait avant, que je trouve trop chouette.
Encore un peu comme Apple avait révolutionné à l'époque l'ergonomie avec l'arrivée de l'iPhone, finalement.
C'est un peu ça. C'est que tu te dis, au moins, pour tout cet argent et tout ce qu'ils ont investi, t'as ce truc où tu te dis, cool. Il y a une utilisation, il y a une rupture dans l'expérience utilisateur qui est importante. Après, est-ce que ça va suffire à l'adoption sur le marché ? Je pense que ça va pas changer grand chose.
Fonctionnalité importante mais marginale. La fonctionnalité principale, c'est ça fait mal aux yeux aussi. J'ai eu mal aux yeux assez vite. Par contre, juste pour préciser, le hand tracking, ça marche. Ça marche de mieux en mieux d'ailleurs chez Meta. Ça marche aussi le clic. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la sélection. C'est le eye tracking. Parce qu'il y a pas de capteur.
Mais tu retrouves cette fluidité.
Oui, c'est vrai qu'on peut jouer à certains jeux avec le Quest 3 notamment. Ouais. Même même sans manette.
Ouais, bien sûr. Hein,
puisqu'ils détectent tes mains très facilement. Pas toujours très précis, mais on voit qu'ils font des progrès là-dessus.
Et c'est en train de faire des progrès rapides, et grâce notamment à l'IA, c'est la prévision en fait.
Bah, il investit 16 milliards par an, c'est ouais. intérêt hein, quand même, le gars.
Après, quand tu parles d'injustice sur l'Apple Vision Pro, il n'y a pas eu tellement d'injustice. Hein. Finalement, ils n'en ont vendu que beaucoup moins que prévu, ils en produisent deux fois moins que prévu.
Mais je veux dire, le buzz et ce côté un peu du culte en disant, bah, ça y est, Apple Revolution, ils ont inventé un truc. Et par rapport à l'iPhone, là, ils sont beaucoup plus suiveurs que leaders. Ce qui est
une différence. Ok, juste dernière chose, hein, si vous voulez vous offrir un Vision Pro d'occasion, en ce moment sur eBay, ça brade. Hein, parce qu'en fait, voilà, la hype est retombée. Et finalement, des produits qui avant se vendaient plus cher que le prix de vente officiel, maintenant ça coûte moins cher.
Il n'y a pas d'engagement.
On trouve des Vision Pro à 2000 euros, notamment. Donc ça prouve qu'il
n'y a pas d'usage.
Petit problème. Et voilà. Le Rabbit pour terminer, il nous reste 2-3 minutes. Voilà, bon, on s'attendait quand même à cette petite déception. Rappelons ce que c'est, hein, ce petit appareil tout rouge avec un écran qui était censé remplacer le smartphone parce que on allait discuter avec une intelligence artificielle.
Il est assez gros quand même, hein, comme appareil.
Oui. C'est gros. J'arrive pas trop à me rendre compte. J'en ai pas vu en vrai.
Ouais, c'est plus large qu'un smartphone, quoi. Enfin, c'est la largeur d'un smartphone, d'un iPhone, quoi.
Voilà. Bon. Écoute, visiblement, ça marche pas aussi bien que prévu.
Saluons déjà. Bah, déjà, tu peux pas l'utiliser si t'as pas une connexion Wi-Fi. C'est un peu dommage pour un truc qui est censé remplacer un smartphone. Non, saluons le titre de la Fnac, le labo Fnac, qui dit Rabbit va retourner dans son terrier. Je trouve ça très drôle. Oh, c'était bien.
Oui. Au moins, comme ça, c'est clair.
Hein. Après, ça ressemble à un Pokédex. Bon.
C'est le problème du buzz, quoi. On ship des produits qui sont pas finis.
C'est AIPIN qu'on avait vu ici. On était sur le plateau déjà, on avait dit AIPIN. Les fonctionnalités sont pas évidentes. Ça révolutionne pas grand chose. C'est plus un smartphone qui a une autre dégaine, mais qui fait quelque chose de plus limité. Mm-hmm. Bon, mais c'est une discussion, tu sais, ce midi encore, j'avais une discussion avec un mec qui me disait j'achète un iPhone pour l'appareil photo une fois de temps en temps, mais ça fait 10 ans qu'on n'a pas changé quoi que ce soit au smartphone. Bah, c'est vrai.
Fred?
Non, bah on aurait bien aimé l'avoir en main plus vite, on nous avait dit mois d'avril, hein, et puis maintenant ceux qui ont commandé, on leur dit...
On attend avec impatience celui de Julien Villeray qui l'a commandé, il arrive en juillet.
Oui.
J'espère que ce sera avant qu'on parte en vacances, qu'on puisse vous en parler.
Pour un produit qui sert à rien, c'est dommage.
Ouais, c'est dommage.
Bah après, si vous avez GPT Premium sur votre téléphone...
C'est pareil, on a le Rabbit.
C'est mieux, en fait. Ça va plus vite.
Bien sûr. Oui, c'est ce qu'on reproche en
dernière fois. Mais je pense que c'est ce qui les a un peu tués, c'est que tout d'un coup est arrivé intelligence générative avec le prompt vocal, etc.
L'étoile noire de la tech, le smartphone.
Toujours, comme toujours. Fred, il nous reste 2 minutes. On va parler du pouvoir d'attractivité de la France en termes d'industrie, quand même, parce que je sais que depuis tout à l'heure, il me bassine avec ça. Il me dit, il faut qu'on parle de ça absolument parce que c'est important.
En fait, on a fait.
En gros, pour les investisseurs étrangers, la France est hyper bankable. C'est le premier pays le plus séduisant en termes d'investissement.
Oui, depuis 5 ans, surtout les investissements.
Ça, c'est cool quand même.
Dans la construction, du pharma, la chimie, la plasturgie, tout ça. Sauf. Pour le digital. Et le digital, alors là, la France, alors c'est le secteur, alors ça reste attractif, hein, mais deux fois moins l'investissement qu'au Royaume-Uni. On est au Royaume-Uni, 2023, 16 milliards d'euros d'investissement en France. 8 milliards. Le nombre de projets, alors c'est EY hein, qui a calculé ça, le nombre de projets, c'est 255 projets menés dans le développement, le software, l'IT et tout ça. 255 projets au Royaume-Uni, 135 en Europe. Et alors, qu'est-ce qui revient tout ça dans nos défauts? C'est que nous, on n'a pas de fonds de pension. On a un cadre législatif, fiscal, administratif très compliqué. On a une fiscalité, un droit du travail hyper compliqué. On a beau dire on a les meilleurs ingénieurs, n'empêche que ça coûte moins cher de les recruter là-bas, même avec des salaires équivalents. Et puis des implantations, hein, Zoom, OpenAI, technologie. Le seul truc où ça va mieux, c'est l'IA. L'IA, on a implanté 17 projets ici contre 12 au Royaume-Uni.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que...
Ouais, oui, justement. C'est pour ça que je voulais en faire aujourd'hui. Parce que
je suis vraiment parti pris, parce qu'en plus... Moi, je travaille avec le ministère de Business and Trade, d'économie, du commerce anglais. Et d'ailleurs, on va en Arabie Saoudite dans 10 jours pour parler d'investissement des fonds saoudiens en Angleterre ensemble. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel je pense que les Français s'autoflagellent trop sur le côté administratif et fiscal. je pense que ce problème, il est
c'est ce qui ressortait de l'étude EY. Hein.
Ouais, mais vraiment, pour le vivre, et avec les investissements, etc., je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment sur les dividendes, etc., en France, qui fait que, avec la flat tax, etc., qui fait que c'est beaucoup moins une barrière que ce qu'on pense. Il y a déjà, les boîtes américaines investissent en Angleterre avant, Station F, ça a une résonance mondiale, il n'y a nulle part comme ça, tout le monde en parle aux US, dans la Silicon Valley. Donc je pense que c'est aussi un rattrapage, mais moi, de l'extérieur, vivant en Angleterre, je vois la France comme beaucoup plus attractive qu'elle ne l'a été il y a 5 ans.
C'est vrai qu'on aime bien s'autoflageller un peu quand même.
Moi, je te donnais juste les chiffres EY et tout ça, les raisons EY.
On arrête là. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Clément.
Avec plaisir.
Clément David de Paddock, bien sûr. On parlait de cloud et pourquoi il a une telle expertise dans ce monde-là. C'est que, bah voilà, Paddock, c'est du cloud. Hein. Merci à toi, Lucas.
Merci.
Lucas Perraudin, fondateur de Moona Digital et ancien directeur du Meta Reality Lab de Meta, c'était il y a quelques années. Et puis, merci à toi, Fred. Fred Simotel, qu'on retrouve lundi.
Lundi, si Léa Benim veut bien de moi.
Mais bien sûr qu'elle peut toi. Forcément, on sera quatre. Ouais. On sera quatre la semaine prochaine pour débriefer l'actu. Peut-être qu'on vous fera un grand débrief d'actu.